une saison de musique avec l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté. Jean-François Verdier, son directeur musical, est en ligne. Comment va l'OVHFC ?
Bah écoute, il va de mieux en mieux. On est toujours très actif, toujours prêt à redémarrer les saisons avec énergie, d'autant plus que cette fois-ci, on s'est arrêté assez peu cet été. On a joué assez tard en juillet et on a recommencé assez tôt en août. Donc on est tout feu tout flamme pour la rentrée.
Pour préparer ce genre de conversation, on a des lectures qu'on nous fait parvenir. Les services communication sont faits pour ça. Et je dis 44 concerts dans 15 villes différentes.
Et oui, c'est chaque année un peu plus. On a la chance de travailler de plus en plus dans différentes villes de la région et aussi de sortir de la région aussi à l'invitation de quelques festivals ou salles importants. Donc on est très content de ce développement. Évidemment, on y va prudemment parce que nous n'avons pas l'ambition de jouer tous les jours ni les moyens de le faire, mais on essaye d'être de plus en plus présent partout et de justifier notre cahier des charges d'orchestre régional.
Lorsqu'on dit 44 concerts, il ne s'agit pas de 44 programmes différents, bien sûr, mais ça veut dire tout de même que vous allez jouer beaucoup.
On va jouer beaucoup. De toute façon, l'orchestre joue quasiment toutes les semaines maintenant de l'année, avec des concerts plus ou moins gros, évidemment. Notre travail n'est pas que de faire des concerts symphoniques dans des salles importantes. On joue aussi dans des lieux différents, avec des formes différentes aussi pour aller toucher des publics divers. Donc les enfants, on joue aussi dans les EHPAD, on joue dans les collèges, dans les préfectures, dans les gares, dans les trains. Ça se développe aussi de ce côté-là. Et donc l'OVH, l'Orchestre Victor Hugo, c'est un service public. Donc on est au service du public. Si le public n'est pas habitué à aller dans les salles de concert, on va le voir, on va jouer pour ce public-là, avec l'espoir qu'un jour, on le retrouve dans les salles de concert, ce qui se passe assez souvent. Une fois que les gens nous ont vus, ils se disent que finalement, la musique, c'est d'abord beau, mais que c'est un partage facile, qu'on est finalement d'accès simple, et que les salles de concert leur sont aussi grandement ouvertes.
Ça veut dire que lorsqu'on travaille en région, on a nécessairement une sorte de fonction socioculturelle ?
Ben bien sûr, puisque on fait partie de la société. La musique, c'est un des moyens de relier les gens depuis toujours, et un des moyens de même avant même le langage. On pouvait imaginer qu'avec les sons, les sons ont précédé le langage, et que donc c'est une des théories qui fait que la musique est arrivée avant le langage. Donc ce lien humain et social, nous sommes évidemment en charge de le garder, de le protéger, de le montrer partout, parce que un orchestre n'est pas exclu de la société de la même manière qu'un hôpital n'est pas exclu de la société ou que une société de transport ne peut pas l'être. On fait partie de la société, et donc à ce compte-là, il faut évidemment être présent partout. La gageure, c'est d'arriver à être présent partout en étant bon partout où on va, ce qui demande effectivement des idées, de l'énergie, du dynamisme et la volonté de le faire. Donc on fait attention aux endroits où on va. Alors on est invité dans de belles salles, de beaux endroits. On revient du festival Berlioz, on va aller au Folle Journée, on va en Suisse. On a des choses qui sont super. On est à la Philharmonie de Paris. On a un film qu'on a tourné à Paris avec René Fleming, la grande soprano, qui voulait faire un film à Paris avec un orchestre français et un chef français, qui nous a choisi. Donc c'est un film qui sort dans les cinémas IMAX du monde entier, et ça fait partie des très belles choses, comme les disques qu'on fait, qui nous permettent d'être une force de proposition, mais aussi une vitrine de notre région ailleurs. Mais évidemment, tout ça se fait à partir du moment où on a fait notre travail principal dans la région et dans nos villes.
Ça fait partie de la saison d'une certaine manière, et je viens d'entendre le mot disque. Trois projets pour cette saison ?
C'est beaucoup, mais ils sont complémentaires. C'est-à-dire, ce sont des disques qui servent à chaque fois à quelque chose. On en a deux qui vont sortir bientôt, d'ailleurs, qui ont été enregistrés l'année dernière, avec des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, les projets qui nous arrivent, il y en a un qu'on enregistre en novembre avec Sandrine Piau, donc grande chanteuse française avec laquelle on a enregistré déjà un disque qui a gagné beaucoup de récompenses, et donc on nous a demandé d'en faire un autre, et on a souhaité avec Sandrine changer complètement de répertoire, avec la musique autour des poètes français, un disque comme le premier, très réfléchi, très travaillé, très pesé partout, de manière à essayer de rééditer l'exploit du premier, si vous voulez. On a un autre disque qui n'a rien à voir, qui va être un disque de conte pour enfants, autour de Sirba Octet, c'est une musique de Pays de l'Est, musique slave, avec des histoires complètement différentes et magiques.
Mais alors, ce serait un peu la suite de la démarche du gros ours ou du carnaval des animaux à la sauce Frigo-Verdier.
Non, pas du tout. Là, je n'ai pas du tout écrit la musique. Ce sont des musiques des Pays de l'Est qui sont regroupées par Sirba, qui est un octuor spécialisé là-dedans, avec lequel on avait déjà joué pour des concerts du Nouvel An avec un très grand succès. Donc, ils nous reviennent avec ce projet-là, qui est un projet de musique slave symphonique. Ce sont des musiques traditionnelles des pays de l'Est sur des contes qui nous viennent de ces pays-là. Et puis le troisième disque, marqué d'une pierre blanche, parce qu'en fait, évidemment, il ne vous a pas échappé que l'orchestre s'appelle Victor Hugo, que Victor Hugo à Besançon, c'est quelque chose. Et il se trouve que Victor Hugo avait une fille qui s'appelait Adèle. Donc il y a eu un film assez célèbre qui s'appelait Adèle H avec Isabella Gianni il y a déjà un certain temps, et cette Adèle était compositrice et évidemment écrasée par la personnalité du père et aussi malmenée par un tempérament psychiatrique assez instable, elle a arrêté de composer assez vite et elle a eu un destin tragique par la suite, mais on a retrouvé toutes ces compositions qui sont des compositions toujours pour la voix et on va en faire la création mondiale et l'enregistrement avec un florilège de chanteurs et de chanteuses tout à fait remarquables qu'on a réunis pour l'occasion. Et donc ça, c'est quand même historiquement et musicalement une chose tout à fait passionnante dans laquelle on se lance. Donc vous voyez, c'est à chaque fois quelque chose de très différent. On a cette année un autre disque qui va sortir bientôt, qui est un disque avec du blues, un groupe de blues symphonique avec une création et puis une œuvre qu'on n'avait jamais jouée en Europe avant qu'on la reprenne il y a 2 ans. Et donc à chaque fois, on enregistre, mais on n'enregistre pas la même chose que tout le monde. On ne fait pas des versions de symphonie, par exemple, qui auraient été déjà enregistrées plein de fois. On ne se fixe que sur des choses qui valent vraiment le coup. On se dit, là, il y a vraiment quelque chose à enregistrer parce que ça n'a jamais été fait, ou parce que c'est une création, ou parce qu'on a retrouvé des partitions et que si on ne le fait pas, personne ne va le faire, en fait. Donc, on essaye d'être utile au milieu musical de cette façon-là.
Ça, c'est vrai pour le disque. Par contre, c'est moins vrai pour les programmes de concert. Je vois la Symphonie Fantastique, Berlioz, le Boléro de Ravel, bien connu s'il en est, la Moldau de Smetana ou le Songe d'une nuit d'été.
Oui, alors là, vous citez évidemment les plus connus. Il y a aussi des choses que le public connaît.
Mais c'est pourquoi, Jean-François Verdier, c'est pour que le public s'y retrouve ou c'est aussi pour le plaisir du musicien qui, après tout, est important?
Mais bien sûr. Mais le plaisir du musicien rejoint celui du public parce qu'il ne faut pas bouder son plaisir. C'est-à-dire que la Symphonie Fantastique, par exemple, ça reste quelque chose d'extraordinaire à écouter, mais aussi d'extraordinaire à jouer. On construit aussi le niveau d'un orchestre au travers des œuvres de référence, si vous voulez. Et le public aussi aime les retrouver. C'est une démarche complètement différente d'enregistrer un disque pour un témoignage ou quelque chose de particulier qu'on veut montrer à un moment que de faire une saison où il faut que l'ensemble des goûts soient réunis. C'est pour ça que dans cette saison-là, évidemment, il y a, comme dans toutes les autres, ma marque parce que c'est moi qui l'ai choisi, mais en même temps, c'est pas moi qui impose mes choix. C'est-à-dire qu'en voyant la saison, il n'est pas dit que vous puissiez dire voilà, il adore tel compositeur et il n'aime pas celui-là. Parce qu'en fait, c'est à nouveau un service public, il faut qu'il y ait de l'intérêt pour tout le monde. Donc, effectivement, jouer le boléro, jouer le concerto en sol, ben, c'est quelque chose de merveilleux. Un orchestre ne peut pas se passer de le faire et les musiciens seraient tristes s'ils ne le faisaient pas autant que le public. Donc, on se fait plaisir.
Hors du boléro de Ravel ou de quelques autres morceaux connus, alors on pourrait dire cette année, tiens, Jean-François Verdi a la lame un peu romantique, style romantisme allemand par exemple.
Oui, bon alors ça c'est un peu chaque année quand même, hein. Il y a toujours un peu de romantisme allemand, c'est quand même la base du grand répertoire symphonique, donc forcément on joue du grand romantisme allemand, mais il y a tellement de choses à jouer, c'est effrayant. Si vous voyez le nombre d'idées que je mets sur ma feuille avant de garder les programmes qu'on va pouvoir jouer, c'est un crève-cœur à chaque fois, parce que on pourrait faire 30 saisons en une seule, et or on ne peut en programmer qu'une. Donc forcément, par exemple, cette année, on a Bruckner, qu'on joue en octobre, et Bruckner qu'on n'a jamais joué. Ça fait partie des choses aussi qui plaisent beaucoup aux orchestres, de jouer une symphonie de Bruckner, et pour l'instant, on n'avait jamais abordé ça.
Jean-François Verdi, vous êtes le directeur musical de l'orchestre, et donc c'est vous qui mettez sur le papier, je reprends votre expression, les œuvres au programme des concerts donnés par l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, mais vous ne dirigez pas tous les concerts. Alors, comment choisissez-vous d'inviter tel ou tel chef ?
En général, je fais la moitié de la saison à peu près. Pas parce que ça fait trop de choses, c'est juste parce qu'il est bon que tout orchestre soit confronté à des chefs différents, d'âge, de sexe, d'expériences différentes et de provenances différentes aussi. C'est ça qu'il convient d'ajuster. Alors, en ce qui concerne les chefs d'orchestre, par exemple, Bertrand de Billy, que j'invite en mois d'octobre, justement pour ce Bruckner, quelqu'un que j'avais envie d'inviter depuis des années, mais c'est quelqu'un qui est très, très pris. Donc là, il faut qu'il y ait l'envie, le projet qui va bien, la date qui coïncide, et puis ensuite que ça reste cohérent pour l'ensemble de l'année. C'est un petit travail de Rubik's Cube intéressant, mais un peu compliqué. Moi, j'essaye toujours d'inviter des gens qui ont un discours qui peut apporter quelque chose par rapport à ce que je peux faire moi. C'est-à-dire qu'évidemment, Bruckner, j'aurais envie de le diriger, mais Bertrand a été directeur à Vienne pendant 6 ou 7 ans. Et Bruckner à Vienne, c'est quelque chose.
Est-ce que tous les chefs peuvent travailler en symbiose avec cette personnalité qui est propre à chaque orchestre ?
Alors, ça dépend des orchestres. C'est-à-dire qu'il y a des... moi, pour être chef d'orchestre invité ailleurs aussi, je le vois, il y a des orchestres qui ont une personnalité très forte et qui n'entendent pas qu'on les dérange beaucoup dans leur façon de jouer les choses. Même Leonard Bernstein s'était un peu cassé les dents justement à Vienne en essayant de les faire jouer de manière agressive et violente dans du Shostakovich, alors que l'orchestre de Vienne n'aime pas jouer agressif et violent, et même lui s'était un peu cassé les dents là-dessus. Donc ça peut évidemment arriver, mais notre orchestre est un orchestre qui est jeune, un orchestre qui a été formé il n'y a pas très longtemps, un orchestre avec des jeunes musiciens, et on est habitué à changer de répertoire et à changer de visage en fait selon les semaines qu'on aborde. Donc il y a une curiosité, une envie, une disponibilité que tout le monde reconnaît, et en fait on n'a jamais eu de réticence à essayer quelque chose. Voilà, là, c'est un orchestre qui a été formé pour ça, si vous voulez, qui est bien éduqué pour ça, pour essayer les choses, pour tenter, pour se lancer dans des aventures. Donc j'ai aucun souci, quels que soient les chefs que j'invite ou les solistes, à savoir que ça va bien se passer. Thank you.
on l'aura remarqué, Jean-François Verdier, on n'a donné aucune date, on a donné très peu de lieux. Alors on va en donner au moins une, c'est le prochain rendez-vous que vous donnez au public. C'est ce dimanche, puisque vous assurez le concert de clôture du Festival international de musique de Besançon.
C'est le dimanche 18, donc, et on fait le concert de clôture. Alors l'année dernière, on avait fait le concert d'ouverture, donc on est spécialiste de l'ouverture ou des fermetures des portes du festival. Cette année, oui, c'est un concert tout à fait romantique. Alors là, pour le coup, absolument, avec Marc Copé, grand violoncelliste français, qu'on invite aussi pour la première fois. Il se trouve que c'est son anniversaire. C'est pour ça que j'insistais sur le 18 septembre. On arrivait à jouer avec lui le jour de son anniversaire, donc un concerto de Schumann. Et puis avant, on jouera des extraits de la Moldau, enfin de Ma Patrie. Donc la Moldau est par les prés et les chants de Bohème. Et Don Juan de Strauss, qui est un grand poème symphonique, évidemment, qu'on n'a jamais abordé non plus. Ce qui est super avec le répertoire symphonique, c'est qu'il y a des choses qu'on connaît et qu'on aime retrouver, mais il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore jouées. L'orchestre est de plus en plus avide d'en découvrir.
Allons au concert, et particulièrement donc au concert au pluriel de l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté, à commencer par le concert de ce dimanche. Les programmes détaillés, bien sûr, on les trouve sur le site de l'orchestre et on met le lien sur le site de BFC Classique.